On va commencer, si vous voulez bien. Nous sommes trois pour vous présenter ce livre et deux pour vous présenter Daniel Brun. Laura Youn, qui est psychologue psychothérapeute, qui travaille en unité de soins palliatifs. Et moi, je suis Franck Dugravier, je suis pédiatre. Et j'ai un certain nombre d'autres activités parallèles qui justifient que je puisse être ici aujourd'hui.
Excuse-moi, je travaille aussi en maternité.
Et en maternité. Je vais vous lire une petite présentation de Daniel et de son ouvrage. Et après, on ouvrira la discussion par des questions. Elle n'a pas prévu de faire un exposé théorique en soi, mais par contre, ce sera une discussion à bâton relativement rompu, dans laquelle vous pourrez intervenir comme vous le souhaitez. Et si certains d'entre vous ont lu le livre, ça sera facilité. Donc Daniel Brun nous fait l'amitié de venir présenter son dernier ouvrage, Mère majuscule. Et nous parlerons tout à l'heure de relatif mystère que peut receler ce titre. Elle est psychanalyste, membre d'Espace Analytique et professeure émérite à l'Université de Paris 7 Denis Diderot. Une part de sa carrière s'est déroulée dans les services de cancérologie de l'enfant à Gustave Roussy sur l'incitation du docteur Odile Schweizgut, pédiatre, qui fut une des premières à consacrer son travail à la cancérologie en pédiatrie et qui perçut très vite, non sans susciter de vives réticences à l'époque, et d'ailleurs encore maintenant ça existe, la nécessité de faire entrer les psychanalystes dans les services de soins. Auparavant, en 1966, le professeur Royer, qui a été un des grands inventeurs de la pédiatrie moderne, je dirais, en avait déjà fait l'expérience, demandant à Ginette Rimbaud de venir travailler avec lui dans son service de pédiatrie. Vous vous souvenez du livre que ça avait occasionné, qui était « L'enfant et la mort », entre autres. Lacan avait écrit un texte en ce sens, sur demande de Royer, c'est ça, hein, sur demande de Royer, de Génie Aubry, qui avait un service dans le même hôpital.
Surtout Génie Aubry.
En se posant la question de la place de la psychanalyse dans la médecine. Daniel relate en détail dans son chapitre « L'éclatement narcissique » de son livre, de la page 183 à la page 194, elle relate en détail l'historique de cette évolution. Cette rencontre avec les enfants atteints de maladies graves, leurs parents, les fratries, avec les soignants, a déterminé l'un des axes très importants de son travail, et avec quelques autres, dont Jacqueline Morisi, elles ont été parmi les premières, des femmes surtout, à faire entrer la psychanalyse dans les services de pédiatrie ou de médecine. Dans des services aussi lourds, la nécessité s'en faisait cruellement sentir. Les somaticiens, ou certains d'entre eux le savaient, il faut vous dire qu'à cette époque-là, pour donner un exemple, plus de 90% des enfants atteints de leucémie mouraient, alors qu'actuellement, plus de 90% des enfants atteints de leucémie guérissent. Inutile de vous dire que pour le personnel soignant, pour les familles bien entendu, mais ça va de soi, mais pour le personnel soignant, le fait de travailler dans ces services était extrêmement dur et que beaucoup de gens n'y résistaient pas très longtemps. Et que l'intrusion, je fais exprès de dire ce mot, d'ailleurs Daniel est rentré par intrusion dans le service, l'intrusion dans les services de cancérologie infantile a été, pour ceux qui ont bien voulu jouer le jeu, un apport fantastique pour la pensée autour de la maladie et de la mort. Et donc pour finalement ce qui est toujours le but, qui est le bénéfice des patients et de leur famille. J'imagine que parfois elles ont dû forcer la porte, ou bien que parfois même elles sont rentrées par une petite porte de côté, parce qu'il y a des tas de gens qui ne voulaient pas du tout les laisser rentrer. Je crois que Daniel est allé chez Odile Schweizgut et qu'elle lui a dit « Est-ce que vous n'avez pas besoin d'une psychologue ou d'une psychanalyste dans le service ?» C'est comme ça qu'elle a commencé à y travailler. C'était en... Quelle année c'était ?
69.
69. C'est dans ce cadre qu'elles ont commencé à organiser la rencontre entre somaticien et psychanalyste. Quand je dis la rencontre, je ne parle pas de groupe de travail, je dis la rencontre. C'est-à-dire la façon de se connaître, de connaître les limites de chacun, les distances à respecter, et de pouvoir mettre en commun une expérience dans le sens de ce travail. Donc c'est dans ce cadre qu'elle a commencé à organiser la rencontre entre somaticien et psychanalyste, et c'est tout naturellement dans la continuité de cette pensée qu'en 1993, elle a organisé le premier colloque de médecine et psychanalyse, créant en même temps le groupement de travail du même nom, qui persiste, qui existe. Ce colloque, intitulé « Pédiatrie et psychanalyse », avait eu un énorme succès. Depuis, 12 colloques ont eu lieu, tous les deux ans au début, et annuels depuis 2005, toujours à Paris, sauf une fois à Avignon. Et il faut y ajouter un colloque un peu parallèle, Psychanalyse et fin de vie, en 98 à Paris, et un autre à Bordeaux, en 2008, qui s'appelait Amère naissance. Les prochains auront lieu en janvier 2012 à Paris, sur un thème qui reste à préciser, et en juin 2012, sur le thème du transfert dans la clinique à Toulouse. Je vous engage à aller voir le site de médecine et psychanalyse qui vous donnera les renseignements les plus précis et la possibilité de vous inscrire à ces divers colloques si vous en avez l'envie. Pour beaucoup d'entre nous, pédiatres, médecins d'adultes, mais aussi pour les psychanalystes, je veux dire par là qu'il n'y avait pas forcément, dans notre conception commune de ce travail, il n'y a pas d'asymétrie. Donc pour nous, pédiatres, médecins d'adultes, mais aussi psychanalystes, ces rencontres dans le vif, cette mise en commun, pas si facile, parfois maladroite, parfois incertaines, ont radicalement changé notre façon de penser, et de penser la maladie, et de penser le soin, et pour nous, quand on travaille en ville, de penser la consultation. Mon impression, lors du premier colloque, la première fois que je suis allé au colloque de 93, j'avais l'impression de ne pas être indemne. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'il m'était arrivé quelque chose que je ne connaissais pas. C'était contemporain de l'analyse, mais c'était une expérience d'une autre nature, où j'avais vu des gens que je pensais être dans une tour d'ivoire, capables de parler avec d'autres qui étaient sur leur camp à soi, s'ils n'avaient pas de tour d'ivoire, mais tout d'un coup étaient venus dans la maladresse du propos de certains et dans la recherche de cette jonction, quelque chose autour du soin qui apparaissait comme nouveau et qui était très intéressant. Il est particulièrement important et urgent dans ces temps troublés de la médecine actuellement et plus largement de ce que devient la santé publique et de ce que devient la santé personnelle, de faire se rencontrer ces disciplines, de restaurer l'existence de la vie psychique et l'importance du fait psychique dans la pensée médicale. Je vous promets que le danger est vif et qu'il faut y penser souvent. Une phrase du livre l'exprime bien, page 161, lorsque Daniel dit « La médecine sait aujourd'hui de mieux en mieux répondre aux besoins de soins » mais elle échoue encore à résoudre la diversité des problèmes qui relèvent de la violence intime que la maladie fait au psychisme. Ce n'est pas la première fois que Daniel vient présenter ses livres, et j'ai eu le plaisir de la présenter, c'est la quatrième fois aujourd'hui, une fois pour une conférence sur la pédiatrie et la psychanalyse, une autre fois pour un livre qui s'appelait « La passion dans l'amitié », puis un autre qui s'appelait « Les enfants perturbateurs ». Ces ouvrages sont très différents les uns des autres. Ils abordent des sujets qui sont eux aussi différents en apparence. L'un d'entre eux, selon moi, qui est « L'enfant donné pour mort », publié en 2001, me semble être Princeps, organisateur de l'ensemble de ses écrits ultérieurs. Je ne sais pas si elle sera d'accord tout à fait avec cette phrase, mais enfin c'est mon sentiment à la lecture de ces livres. Pour qui les a lus successivement, on trouve un fil conducteur, une direction qui anime une même pensée et confère une évidente cohérence à des thèmes qui sont interdépendants. Le statut de l'enfant malade, et en particulier souffrant de pathologies malignes, le statut du corps, le statut de la psychanalyse et des psychanalystes aux côtés des somaticiens, la parole de chacun, la différence entre l'abord du corps et de l'objectif de la maladie et de la parole telle que le psychanalyste peut la relever, et de ce qu'il en fait avec le médecin. Et puis surtout dans ces thèmes, une réflexion constante, qui sera, je pense, en partie de notre propos de ce soir, une réflexion constante et évolutive sur la féminité, ses fondements, son devenir individuel et collectif, et ce, à travers divers aspects de la vie des femmes, de l'amitié et de l'adolescence à l'amour, de la petite fille à la mère, de la mère heureuse à la mère déçue, nostalgique et parfois mélancolique. Daniel a raison quand elle dit dans un autre texte explicatif de celui-ci que ce n'est pas à proprement parler un livre sur la psychanalyse. Moi, je dirais que c'est un livre de femmes, un vrai livre de femmes qui touche des aspects peu évoqués de la féminité. Et je trouve que parmi ces livres, c'est celui qui me semble pas le plus facile à lire, mais le plus abouti, parce que je trouve qu'elle y reprend avec une maturité différente l'ensemble des thèmes qu'elle a pu évoquer, et qu'elle en parle sur d'autres modes que ceux qui étaient leur description première. Et quand on lit le livre, il m'a fallu deux reprises, et je retrouve des recoupements qui m'ont beaucoup intéressé avec les premiers écrits, avec les autres écrits, mais dans quelque chose où il y a une cohérence interne au livre. Donc c'est un livre de femmes et à ce titre, nous pouvons la remercier et c'est aujourd'hui à nos félicitations que nous mettrons une majuscule, je pense. En 5 parties, 10 chapitres, elle évoque des femmes, des mères, assaillies par une sorte de nostalgie dans divers moments ou situations de leur vie. Les mères majuscules, il ne s'agit pas, comme elle le précise dans son avant-propos, d'une figuration de la mère en majesté, bien au contraire d'une représentation de sa nostalgie. Une nostalgie qui trouve ses fondements dans les déceptions qui balisent le devenir femme d'une petite fille. Un état qui provoque la surprise, pour le moins, chez la femme elle-même, surprise de cette division intime survenant dans sa vie, mais aussi dans son entourage, et chez les enfants de ces femmes, peut-être plus particulièrement les filles, mais j'en suis pas sûr, et c'est une des questions que je poserai volontiers tout à l'heure à Daniel, qui découvrent une mère qu'ils ne connaissaient pas, qui découvrent en leur mère une femme. Chaque partie de ce livre se déploie comme un accordéon, suscitant réflexions et questions multiples, excitant notre curiosité. Pour les femmes, il évoque quelque chose qu'elles connaissent peut-être toutes, intimement, et qu'elles savent les unes des autres. Pour les hommes, c'est Nigo. Il participe à notre regard curieux et ébahi sur le continent noir de la féminité. Et je finis par une phrase de Méphistophélès que cite Daniel dans son livre. J'ai rien inventé, je n'ai fait que reprendre des éléments de son livre. « Es-tu donc si borné qu'un nouveau mot te trouble? Ne veux-tu donc ouïr ce que tu as déjà oui ?» Voilà, c'était un petit texte de présentation de Daniel, de son travail dans médecine et psychanalyse, et sur la fin de son livre. Maintenant, je vais peut-être lui demander d'expliquer en premier le mystère de son titre, parce que pour qui aborde ce livre sans en avoir l'explication, je vois que vous opinez du chef, c'est une question étonnante, puisque ce mot de majuscule, d'habitude, on le verrait plutôt utilisé pour magnifier une situation, pour mettre quelqu'un dans la gloire. Ce qui, si on y réfléchit d'ailleurs, est un abus de langage et de vocabulaire, parce qu'il n'y a pas de raison, la majuscule n'est que celle du nom propre ou du début de la phrase, après tout, ce n'est pas une exergue de qualité. Donc je vais laisser à Daniel le soin de nous expliquer ce qui l'a amené à ce titre.
Merci beaucoup, beaucoup, Franck, pour cette présentation. Oui, je vais répondre, je vais reprendre, mais peut-être que Laure va enchaîner et puis moi, je ferai un dialogue avec vous.
Oui.
Voilà.
Effectivement, je pense que dans notre clinique, moi, je suis particulièrement attentive et intéressée par effectivement ces relations mère-fille qui sont vraiment extrêmement présentes quand on rencontre évidemment des mères, quand on rencontre évidemment les enfants. Et c'est vrai que la question de savoir quelles empreintes, quelles traces peuvent laisser ce que vous appelez peut-être la mélancolie, alors je ne sais pas qu'il faudra peut-être la différencier de la dépression, mais je me demande de quelle manière ces traces sont laissées chez l'enfant et comment elles sont transmises, si elles sont transmises. Donc la question de la transmission, pour moi, elle est vraiment fondamentale. Et effectivement, qu'est-ce que l'enfant, à son tour adulte, fait de ces empreintes que je dirais qui n'ont pas, peut-être pas pu s'inscrire dans une symbolique du fait d'une division de la mère dont vous parlez, entre cette mère morte et cette mère vivante. Alors ça fait penser au faux self et au vrai self hein, de Winnicott qui parle de la nécessité de l'enfant qui s'adapte aux besoins de la mère au lieu que ce soit la mère qui s'adapte aux besoins de son enfant, dans des circonstances où, justement, cette mère est absente. Donc, il y a toute la question de la manière dont elle peut faire, malgré tout, des gestes maternels, et qu'en même temps, elle peut ne pas être là. Et ça, quand on parle avec les mères, elles arrivent quand même à en parler et à le dire, parce que c'est très honteux. C'est quelque chose qu'elles n'osent pas dire, parce que c'est, pour elles, très culpabilisant parce qu'elles savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas là, mais elles ne savent pas ce que c'est. Donc dans ma clinique, C'est quelque chose auquel on est confronté et ça surgit sans qu'il puisse y avoir apparemment de chemin à suivre pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe quand, par exemple, une femme, pendant sa grossesse, se met à pleurer. Elle ne sait pas pourquoi. Elle vient en consultation, elle pleure, elle dit qu'elle ne sait pas pourquoi. Voilà comment, je dirais, les choses peuvent apparaître quand on est en consultation, en tout cas en maternité. Voilà. Un petit peu, j'ai peut-être un peu trop avancé dans le...
Juste en complément, dans le livre, il y a plusieurs parties. Et dans la situation de mère majuscule que Daniel va vous expliquer, il y a une période de la vie qui n'est pas forcément celle où les femmes ont des enfants, d'une part. Je ne suis pas certain qu'il soit nécessaire qu'elles en aient pour passer par cette phase. Et ça, c'est
Alors, ce qu'on va voir
tout à l'heure. Mais surtout, c'est quelque chose qui peut saisir les femmes, d'après cette description, beaucoup plus tard dans leur vie. Et alors qu'il n'est plus question que l'enfant soit une préoccupation majeure comme l'est un bébé pour une jeune femme qui vient d'accoucher ou qui a accouché depuis peu de temps. Je crois que c'est plus... Mais ça se corrobore, mais je crois que c'est plus dans l'idée d'une rupture intime, à un moment, de la vie d'une femme, que de quelque chose qui serait suscité par une circonstance particulière. Voilà.
Oui, peut-être. Il y a la question du réel, et je retiendrai la question de l'impossible. C'est comme si quelque chose du côté de l'impossible venait à d'autres moments de la vie, surgir, et du coup entraîner avec cet impossible toute une configuration à laquelle on ne s'attend pas. Et qui est vraiment une vraie surprise. Enfin, je dirais que c'est la question de l'impossible, du fait de la sexualité féminine. Enfin, peut-être que vous pouvez préciser.
Peut-être que je peux repartir sur l'impossible avec la phrase que tout le monde connaît, « À l'impossible, nul n'est tenu ». Et d'une certaine manière, il y a un lien, je crois, enfin en tout cas c'est mon propos, entre la maternité et l'impossible. Alors, je vais essayer de reprendre un petit peu à partir de tout ce qui s'est dit pour à la fois répondre aux questions et cadrer la thématique. D'abord, je voudrais souligner que pour moi, la maternité, c'est différent de l'accouchement. La maternité, c'est une sorte de, je pourrais dire, d'abstraction, mais en même temps, c'est très concret. J'ai envie de vous dire... Essayez de vous représenter la maternité comme un objet qu'on peut shipper, que la fille et le garçon peuvent shipper à la mère, un petit peu comme les enfants à la crèche cherchent à se shipper la voiture ou la poupée ou le jouet. Comme vous savez, les rencontres entre les petits-enfants, ça passe souvent, c'est médiatisé par l'objet. Ben je pense que la maternité dans l'esprit des filles et des garçons, mais ça devient différent chez les filles, c'est l'attribut de la mère. C'est l'attribut de la mère parce que mystérieusement et miraculeusement, son corps se transforme et qu'il devient à un moment ou à un autre gros de quelque chose qui va devenir un bébé, un petit frère, une petite sœur dont on ne va rien vouloir savoir. Mais la maternité, ça reste l'attribut de la mère. C'est une représentation, je pourrais dire, informe, sans forme, du début de la vie, et qui se précise avec les jeux à la poupée. Mais au début, c'est vraiment l'attribut de la mère, et qu'est-ce qu'on en fait ? Et ce n'est pas pour rien qu'une analyste comme Mélanie Klein a mis l'accent sur ces jeux des tout petits enfants qui vont vider le sac, vider les contenants, pour répandre les contenus par terre. Et il y a une espèce de mystère du contenant. Et en tout cas, pour me suivre dans Mère majuscule, je pense qu'il faut garder présent à l'esprit cette représentation de la maternité qui est à la fois abstraite, mais aussi comme un attribut de la mère, forcément, mais comme quelque chose qu'on peut lui enlever, absolument, je voulais dire lui envier, et qui fait énigme, et qui marque de son empreinte la vie de la petite fille. Alors, j'ai été en cela... aussi dans mon parcours, influencé par ce que dit Freud des femmes et la manière dont il évolue dans son œuvre à propos des femmes. Il y a eu dans le début de mon travail un rêve. Bon, l'interprétation des rêves, ça date de 1899. Il y a un chapitre qui s'appelle le matériau ou l'infantile source du rêve. Et Freud, dans ses pages, raconte comment ses patientes cherchaient à venir contredire sa théorie. Parce que c'est très bien d'avoir une théorie, mais est-ce qu'elle est valable à tous les coups et est-ce qu'on n'a pas nécessairement envie de la contredire, comme peut-être on a toujours envie de se contredire les uns les autres. Et donc voilà une femme, une patiente, il la présente comme une patiente qui dit, moi, votre théorie du rêve comme accomplissement déguisé d'un rêve refoulé, j'y crois pas du tout. La preuve, voilà, la nuit dernière, j'ai rêvé, j'ai vu ma fille ma fille de 15 ans morte dans une boîte. Moi, ma fille, je l'adore, et donc je vois pas pourquoi je la verrais morte. Et c'est pas vrai que j'ai un désir de voir ma fille morte. Et alors, évidemment, le processus de l'analyse du rêve, c'est le mouvement associatif. Bon, et de là, je raconte ça parce qu'il y a un mouvement associatif dans mon travail et par rapport aux situations dont Franck Dugravier a parlé. Donc je vais revenir, je raconte juste ce rêve. Donc la dame dit « vous vous trompez » et Freud se laisse pas tellement démonter et donc dit à la dame « mais à quoi ça vous fait penser cette histoire-là » et la dame se souvient qu'elle-même, quand elle était enfant, d'abord quand elle était enceinte, elle a douté cette dame quant à savoir si c'était le moment, pas le moment, est-ce qu'elle s'entendait assez avec le père de cet enfant, est-ce qu'elle allait garder cet enfant ou pas. Donc question que peut-être beaucoup de femmes se posent à un certain moment quand elles apprennent qu'elles sont enceintes, au-delà du plaisir ou de l'attente ou de la joie que ça peut faire, il y a toujours un petit coefficient de questions et de doutes qui ont leur place dans toute grossesse. Donc voilà, ça commence comme ça, mais chez cette dame, elle le dit à Freud, ben, j'étais pas sûre que finalement c'était le moment avec mon mari. Et puis la voilà qui se souvient que sa mère lui a raconté que quand elle-même, sa mère, était enceinte d'elle, la patiente, elle ne voulait pas du tout de cette grossesse. Enfin, on se remet à Vienne fin de siècle, hein, à un moment où la contraception n'existait pas, où les interruptions de grossesse n'existaient pas, sauf de manière tout à fait clandestine par les faiseuses d'anges. Bon, on se remet dans cette période-là. Donc ça, c'est un côté de... Et donc la patiente dit, ma mère m'a raconté qu'elle s'était tapé le ventre quand elle a su qu'elle était enceinte parce qu'elle ne voulait pas de moi. Donc il y a là toute une quelque chose qui se dessine et qui, à l'époque où j'ai commencé à travailler et à accompagner les mères et les enfants malades sur le chemin de la guérison, parce que je me suis toujours plus intéressée aux enfants qui allaient survivre et au devenir du lien mère-enfant au long d'une maladie jusqu'à la guérison. C'est plutôt mon créneau, quoi, plutôt que l'enfant mort. J'ai pas beaucoup parlé de la mort de l'enfant et pas beaucoup parlé de l'enfant mort. Je me suis plus intéressée à ce que devient le lien mère-enfant au cours de l'évolution d'une maladie grave pour arriver au moment où le médecin dit « bon ben voilà, ça va », entre guillemets, quelque chose dont je me suis beaucoup disputée avec le médecin qui disait aux parents « traitez-le comme un enfant normal ». Bon, mais donc, la lecture de ce rêve m'a extrêmement fascinée, je dirais, intéressée, fascinée, parce qu'on y voyait déjà à l'œuvre, donc, en 1899, à travers ce rêve, à la fois la remémoration de la petite fille, la remémoration de la grossesse de la mère, et le lien mère-fille, l'identification mère-fille au travers du projet de maternité. Voulu, non voulu, désiré, pas désiré, accepté, réjouissant, moins réjouissant. Et finalement, c'est ça le socle de mon travail. C'est cette identification entre la mère et la fille autour de la maternité que moi je vois déjà présente, quoique refoulée, oubliée, amnésiée, mais déjà présente dans les relations précoces de la petite fille avec sa mère, et où
la petite fille, mais peut-être aussi le petit garçon, a envie cet attribut de la mère, ce mystère, de pouvoir donner la vie, quoi. Mais pas seulement donner la vie au moment où, où la grossesse est finie, mais aussi la porter en soi, cette, cette vie. Moi, je pense que ça, c'est une empreinte, voilà. Mais qu'est-ce qu'on en fait après ? Alors, je reviens un petit peu au parcours chronologique que Franck a adressé, ben, et à ce que je viens de dire, on voit qu'il y a à la fois, enfin pour moi, il y a une sorte d'intemporalité du rapport de la femme à la maternité qui date de sa vie de petite fille. Il y a une sorte d'intemporalité, ça fait partie du devenir femme de la petite fille, ce rapport à la mère, et puis où intervient le père et où elle change d'objet d'amour. Je m'attarde longuement sur le lien fait d'amour et de haine qui unit de façon un peu particulière la petite fille à sa mère. Pourquoi amour ? Parce que la mère est, pour le petit enfant, fille ou garçon, le premier objet d'amour. Et que progressivement, elle va investir les objets d'amour de la mère, qui sont le père et les autres enfants. Tout bébé s'éveille au microcosme familial et donc développe des liens, des sentiments, des liens d'amour, et qui, en tout cas concernant la fille, se transforme en haine. Alors, on va retrouver ce mouvement d'amour, cette oscillation entre l'amour et la haine dans le devenir femme de la petite fille et dans son devenir mère. Et notamment, Freud y insiste, et là je le suis tout à fait, au moment où avec la puberté, les représentations fantasmatiques de la maternité deviennent tout à fait concrètes et possibles, la fille peut être effectivement porteuse d'un enfant, et grosse d'un enfant, comme autrefois l'a été sa mère, à ce moment-là, dit Freud, il y a un regain d'identification à la mère. Mais à la mère, pas forcément à la mère réelle. Là, j'aborde un autre aspect de mon travail, qui est la réalité. La réalité de la situation, la réalité de la mère, celle à qui on fait des reproches, celle à qui dont on essaie de s'occuper, c'est la mère du quotidien. Mais à côté de cette mère du quotidien, il y a la mère avec son attribut de la maternité. Et quand Freud dit « il y a un regain d'identification de la fille à la mère dans son projet de maternité », c'est à cette mère construite depuis les toutes premières années dont l'attribut c'est la maternité. Et là, on retrouve forcément ces mouvements de haine et d'amour, parce que c'est une proximité de pouvoir. L'anatomie des femmes est une proximité entre elles. Elles peuvent donner la vie, elles peuvent être grosses d'un enfant. C'est bien pour ça que les femmes qui découvrent une stérilité ou qui deviennent par accident stériles dans leur vie sont tellement... veulent tellement à la nature, et peut-être la médecine compense la frustration de la nature, en veulent tellement à la nature de ne pas leur donner ce qu'elles estiment être en droit d'obtenir, même si, ayant des organes génitaux en bonne santé, elles décident, comme l'a fait Simone de Beauvoir et comme l'a dit Simone de Beauvoir, de ne pas en avoir. Mais c'est pas la même chose de ne pas pouvoir et de ne pas vouloir. En l'occurrence, quand on ne veut pas, ça n'empêche pas de pouvoir. Et là, on rejoint la question de l'impossible. À l'impossible, nul n'est tenu. Est-ce que la médecine vient au secours de l'impossible de certaines femmes ? Voilà pour la maternité. Alors, c'est vrai que pour moi, dans mon parcours, le détour par les femmes qui ont pu, à cause d'une maladie grave, redouter autrement la mort de leur enfant que la dame lambda qui va voir son enfant dormir le soir et qui veut s'assurer qu'il respire, ou qui peut avoir l'idée que son enfant risque la mort subite du nourrisson, enfin tous les risques que toute femme peut faire circuler dans sa tête et qui ne sont qu'à l'état potentiel de risque, mais qui montre que la mort redoutée fait partie de la relation du lien mère-enfant au quotidien. Mais parfois, cette mort redoutée devient réelle. Réelle parce qu'elle peut être annoncée. Alors, moi, j'ai travaillé avec ces femmes-là, mais pour ces mères, ces femmes dans ces conditions-là, et y compris quand l'enfant était guéri, puisque le point de départ de ma collaboration avec les médecins et de mes recherches, c'était « mais comment se fait-il que quand on annonce la guérison, le fait de dire « ben voilà, maintenant c'est fini, on se fait moins de soucis, vous reviendrez une fois par an », eh bien, au lieu de se réjouir, au lieu d'être content, ben les parents nous sortent finalement tous les reproches qu'ils ont gardés par-devers eux pendant tout le temps de la maladie. Parce que la séparation d'avec le médecin devient problématique, et surtout le regard de la médecine et la transparence du corps que la médecine peut apporter et qu'elle apporte de longue date sur ce qui se passe à l'intérieur du corps de l'enfant. Et alors voilà, on retrouve l'énigme. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps de l'enfant ou qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon corps dont seules les analyses, les radios, dont seule la médecine, sur quoi seule la médecine peut m'informer, jusqu'à ce que j'ai des symptômes parlants. Mais j'ai pas forcément des symptômes. Parfois, quand j'ai des symptômes parlants, c'est un peu tard. Donc, il y a cette nécessité de maintenir la transparence du corps de l'enfant, même si le médecin dit « soyez plus tranquille ». Donc, on aborde là la question du regard porté sur l'enfant. Qu'est-ce que c'est que ce regard que la mère porte sur son enfant? Alors, j'aborde un peu mère majuscule. C'est là où je reviens à Freud et à cette notion d'intemporel et d'actualité. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans le devenir femme et mère de la petite fille? Qu'est-ce qui a changé avec la médecine? Est-ce que les situations qu'on observe dans des services comme ça de pédiatrie aiguë, est-ce qu'elles ont quelque chose à voir avec les situations du quotidien, même dans les maternités, ou comme on peut avoir, on peut soit parler à nos amis, soit rencontrer des femmes dans le cabinet du psychanalyste. Alors, il y a une phrase de Freud à laquelle moi je suis très attachée et qui m'a beaucoup aidée, selon laquelle la pathologie n'est qu'un grossissement des phénomènes normaux. Donc pour moi, la médecine et le travail que j'ai pu faire en cancérologie, c'était comme un laboratoire. C'était comme un laboratoire où je pouvais avoir accès à ce qui, chez une femme, chez une mère, est habituellement censuré, à savoir le décalage. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que chaque femme, qu'est-ce que chacune de nous fait, aussi bien vis-à-vis de ses propres enfants que vis-à-vis de nos propres parents? Que faisons-nous chacune du décalage qui ne peut pas manquer de se produire à un moment ou à un autre de la vie de l'enfant entre l'enfant dont on a rêvé et l'enfant réel? Qu'est-ce qu'on fait de ce décalage? Mère majuscule, c'est au milieu de ça. Le décalage, l'effet du décalage, c'est ça que j'appelle mère majuscule. À quel moment est-ce que la mère porte sur son enfant un regard qui est un regard où elle le voit comme le représentant de celui qu'il n'est pas, qu'il ne peut pas être, qu'il aurait pu être, le représentant d'un enfant qu'elle aurait pu avoir quand elle était adolescente, et puis elle a dû, je vous donne des exemples, et puis elle a dû avoir une interruption de grossesse parce que à l'adolescence c'était pas le moment, de cet homme qu'elle a aimé et avec lequel elle a pas pu avoir d'enfant, et que maintenant c'est avec cet autre homme qu'elle a des enfants, et peut-être que avec il y a là un mouvement qui est un mouvement essentiel à la vie psychique, qui est un mouvement de balancier, où finalement, l'impossible pour chaque enfant, c'est l'unique objet d'amour. Donc, finalement, tout au long de la vie, ben, on fait la connaissance, l'apprentissage avec ce qu'il y a d'impossible dans le fait d'avoir un unique objet d'amour, à commencer par la mère, que nécessairement, à laquelle on a renoncé pour avoir d'autres objets d'amour. Donc, il y a là un mouvement de la vie psychique qui est le mouvement de tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on en fait ? Et qu'est-ce que, alors, pour répondre, pour essayer d'amorcer les questions et puis en arriver d'autres, en quoi est-ce que ce regard change ? Alors, évidemment, il y a des situations qui sont plus caricaturales que d'autres, mais l'idée, c'est l'idée d'une division intime de la femme, effectivement, entre une partie vivante, intéressée par la vie, par son enfant, attentive, bonne mère, comme bonne mère, au sens qu'on accorde à cette bonne mère. Et puis, il y a la partie de rêverie. Et parfois, cette partie de rêverie, quand elle est alimentée par la réalité, pas pouvoir avoir un enfant par les voies naturelles, avoir une fille au lieu d'avoir un garçon, adopter un enfant et puis voir que progressivement, il a du mal avec ses résultats scolaires, il va s'intéresser à la drogue, il va devenir un peu délinquant, et là, on se dit, cet enfant-là, je l'ai élevé, je l'ai vu à la naissance, mais qui sait s'il ne porte pas les gènes de ses parents biologiques et voilà, donc la déception, elle est là, elle s'accroche aux éléments de la vie, et il y en a toujours des éléments de la vie pour donner un peu de consistance à cette déception qui est finalement... On peut pas remonter d'origine à origine et d'archaïque à archaïque, mais la déception pour la petite fille, c'est de ne pas pouvoir shipper dès ses premières années cet attribut qu'elle envie à la mère. Alors, y a un impossible avec lequel, et heureusement, hein, parce que si on était que dans le registre des possibles, là on tombe dans le domaine de la psychose, ou donc il faut bien qu'il y ait de l'insatisfaction. Mais bon, effectivement, il y a des degrés, il y a un éventail. Donc moi, j'essaye de présenter. Et puis, il y a cette vie fantasmatique. Alors, comment ça rejoint, mère majuscule, le regard et la psychanalyse ? C'est toute l'histoire de la psychanalyse entre une première patiente qui s'appelle Anao, qui s'appelait Bertha Pappenheim, que Freud n'a jamais rencontré, mais dont un aîné qui s'appelait Joseph Breuer, qui était un médecin assez en vue à Vienne, qui a été impressionné par le jeune Freud, en qui il a placé plein d'espoir. Enfin, comme un aîné peut être impressionné, je sais pas, un professeur par un élève. Enfin, il y a une espèce de fascination réciproque pour ce jeune homme. Ce jeune homme qui, l'été 1886, étudie, parce que Freud était un étudiant studieux, cultivé, connaissant, ayant fait ses humanités, ayant Goethe comme auteur tutélaire préféré, entre autres. Et Breuer va lui raconter, voilà, j'ai fait la connaissance d'une jeune fille, elle a 18 ans, depuis la mort de son père, elle va très mal, elle a plein de symptômes, et ce sont les débuts de l'hystérie. Mais l'hystérie était connue depuis le XVIIe siècle. C'était le fléau de la médecine, l'hystérie. Et la médecine ne savait pas bien guérir l'hystérie, en tout cas pas par des médicaments. Et puis tout à coup, l'hystérie a changé de statut grâce aux échanges par la parole et à ces fameuses séances d'hypnose qui ont été les préliminaires de la psychanalyse. Et donc, sous hypnose, Bertha, Anao, a donné des clés, ses clés, les clés de ses symptômes. Et on n'en est plus là à reconnaître l'effet cathartique de la parole. Il ne suffit pas de dire pour que les symptômes... Mais il ne suffit pas de dire, mais c'est important de dire et important d'être écouté au-delà ou en deçà de ce qui est ponctuellement dit. C'est pas la cure de la parole cathartique juste au niveau de la phénoménologie. Ça me soucie que mon enfant soit malade, ça me soucie d'être obligée de me lancer dans un parcours du combattant pour avoir l'enfant dont je rêve depuis tant d'années. Ça, c'est la plainte manifeste en direct. Et puis, au-delà de ça, le propre de l'approche psychanalytique, c'est d'insérer cette plainte dans un avant et dans un après. Donc, Bertha Pappenheim, elle a initié Breuer et il a, d'une certaine manière, écouté. Écouté et fasciné par elle, il venait en parler à Freud. Donc, Freud ne l'a jamais rencontré. Mais ce qu'on sait, c'est que quand Breuer a quitté cette patiente, elle l'a rappelé. Elle l'a rappelé quelques heures après et elle était en pleine rechute. En pleine rechute, est-ce que c'est une rechute? Elle était en pleine explosion fantasmatique, elle était en proie aux douleurs d'un accouchement. Et donc, elle était dans... Qu'est-ce que c'est que l'accouchement? Sur le plan anatomique, c'est quand même l'ouverture d'une femme, enfin, en tout cas, au-delà. Si on ne veut pas rester juste au niveau du diagnostic d'hystérie, eh bien, qu'est-ce que c'est que l'accouchement? C'est quand même la division d'une femme pour donner la vie, elle s'ouvre. Eh bien... Elle s'ouvrait, cette femme, et Breuer lui a dit « qu'est-ce qui se passe ?» Et elle a dit « c'est l'enfant du docteur Breuer qui arrive ». Et là, il a eu très peur. Breuer, il a pris son chapeau, son manteau et il est parti. L'histoire raconte qu'il a même emmené sa femme dans un voyage à Venise parce que sa femme était très jalouse de l'attention que son mari portait à cette jeune patiente. Freud n'a jamais rencontré cette femme, qui par ailleurs est devenue une féministe, à qui on a fait dans les années, je ne sais pas, elle est morte dans les années 50, en Allemagne. Elle a créé un institut pour femmes célibataires. Elle n'a plus jamais voulu entendre parler de psychanalyse, mais c'est devenu une femme du siècle, quoi. On a fait, même les Allemands ont fait un timbre à son effigie. Donc, bon, voilà. Et, bon, l'histoire, c'est que Freud suit son chemin et découvre la psychanalyse, mais on voit bien la question du transfert, la question... De l'importance de la réviviscence de l'amour de la patiente pour ce médecin qui l'écoute, qui est attentif et grâce auquel, parce qu'il la laisse inventer, parce qu'il la laisse parler, pas inventer son propre traitement, ça se fait pas. Mais d'une certaine manière, elle a inventé son propre traitement, mais c'était un traitement par la parole, c'était pas un traitement médicamenteux. Et on voit bien comment c'est lié à... on parle du lien mère-enfant, mais ce lien mère-enfant, c'est un lien, c'est un paradigme, c'est un modèle de lien. C'est un modèle de lien, même si il ne faut pas calquer le lien mère-enfant sur le lien qu'on peut avoir avec un homme, c'est quand même un modèle, y compris dans ses transformations, pas dans ses imitations. Et donc, Freud poursuit son chemin, on est en 1886-87, et puis en 1930, sa mère meurt. Freud était le fils chéri, aîné, fils préféré de sa mère, et il a toujours eu une relation extraordinairement... Enfin, elle était très fière de ce fils, et lui aimait beaucoup sa mère, et disait qu'il ne voulait pas mourir avant elle pour ne pas lui infliger le chagrin de sa perte. Et donc, en 1930, Freud, je vous passe les détails, révise sa théorie de la sexualité féminine, mais inclut la femme, accorde à la petite fille cet amour premier pour la mère, alors qu'il ne l'avait jusque-là accordé qu'au petit garçon. Et puis, il y a un auteur qui s'appelle Stefan Zweig, qui fait un petit livre historique sur, qu'il appelle « La guérison par l'esprit », et où il raconte les débuts de la psychanalyse, la rencontre Breuer-Freud, et il lui dit, dans son livre, en envoyant un exemplaire à Freud, que finalement c'est Breuer qui a dirigé Freud vers la clé du mystère. Or, Breuer et Freud se sont brouillés, parce que Breuer a pris son chapeau, il est parti, et voilà. Et donc là-dessus, Freud écrit à Stefan Zweig, lui raconte la fameuse histoire de l'accouchement fantasmatique, et dit, dans sa lettre, Breuer avait à ce moment-là la clé des mères, mère majuscule, et il l'a laissée tomber. Alors, c'est un peu énigmatique, qu'est-ce que c'est? Référence à Faust. À Faust, à l'histoire de Faust et de Méphistophélès, à Faust qui veut cette éternelle jeunesse, dont aujourd'hui on peut dire que aujourd'hui la médecine a une... Elle promet aux patients peut-être quelque chose d'une éternelle jeunesse, en tout cas d'une survie prolongée. Et au cours de l'histoire, Faust doit aller au royaume des mères. Les royaumes des mères, c'est le royaume des belles dames mortes. Enfin bon, et il y a ces... Donc après, j'ai effectué mon détour, j'ai un peu inventé et j'ai repris toutes ces phrases. La clé des mères, Méphistophélès donne à Faust la clé des mères, il en a très peur, elle lui. Et là, il dit cette phrase, les mères, ça me pénètre comme l'éclair, ça me fait peur. Et Méphistophélès lui dit, tu verras, elles sont dans leur royaume et elles ne te voient pas. Donc on revient au regard, et là je vais m'arrêter, j'ai fait tout un parcours. Elles ne te voient pas, elles ne voient que des schèmes. Moi, je suis partie là-dessus. Je suis partie là-dessus en reprenant les divers fils de ce que je vous ai raconté, de cette histoire précoce de la maternité chez la petite fille, du devenir de cette représentation fantasmatique de la maternité dans son propre devenir mère, de l'identification de la fille à la mère, de la question de l'impossible et du décalage entre l'enfant rêvé et l'enfant réel, décalage que toute femme connaît à un moment ou à un autre, ce qui n'empêche pas que la maternité soit une joie, un épanouissement ou un refus. Et alors, voilà, à quel moment la mère devient-elle mère majuscule, mère, moi j'ai ajouté la majuscule, mais comme c'est écrit mère majuscule, c'est-à-dire elle ne te voit pas, elle ne voit que des schèmes. Elle ne voit qu'un schème d'enfant, c'est-à-dire celui dont elle a rêvé, qui n'avait peut-être pas vraiment de forme, mais auquel celui-là, du fait de ce qu'il n'est pas, de ce qu'il ne peut pas être, de ce qu'il n'est plus, va donner une consistance. Donc l'enfant réel, il est absolument indispensable. Mais aucune femme ne supporte aisément de se dire « j'ai un autre enfant en tête, il y a une autre image d'enfant qui me tourmente ». Donc, c'est un état que la femme, auquel la femme elle-même résiste. Et donc, elle devient encore plus attentive, encore plus, je sais pas comment dire... mère poule, voilà, et peut-être que d'une certaine manière elle pèse. Alors, peut-être que c'est plus facile aussi, on peut tous dire, voilà, c'est vrai, j'ai un frère ou une sœur, ou quelqu'un est mort dans la famille, et finalement ma mère, elle s'en est jamais remise. Alors, c'est peut-être plus facile de dire ça, et de penser que la mère est prise dans un deuil, ou dans une difficulté de vie à cause d'une situation, c'est peut-être presque plus facile, entre guillemets, plus compréhensible, plus accessible de dire ça, que de penser qu'elle peut être à la fois ça et autre chose, à la fois vivante et d'une certaine manière plus vivante à cause, ou un peu mortifiée, je dirais, plutôt que morte, mais mortifiée, que chaque femme porte en elle une partie vivante, une partie mortifiée, qui est liée à quelque chose de l'ordre de la maternité. Et que cette notion de mère majuscule, ça revient à s'interroger sur ce que devient la perte dans la vie psychique, pas seulement dans la réalité. Qu'est-ce que ça devient dans la vie psychique? Comment ça peut coexister avec le fait de continuer à vivre et d'avoir des désirs et d'investir. Et c'est plutôt ça, mon thème. Voilà.
Mais alors, est-ce que, Daniel, on peut imaginer que le statut de mère majuscule nécessite d'avoir eu des enfants? Ou bien est-ce qu'on peut penser qu'une femme qui n'a pas eu d'enfants peut passer par une période de sensibilité similaire? Est-ce que... deuxième chose, est-ce que l'enfant qu'elle a perdu, ça peut être elle, qui était l'enfant de sa mère et qui n'est plus, puisque maintenant elle même fait un bébé? Est-ce que ça peut être aussi une des positions?
Et je crois que toute femme, les femmes, les filles comme les garçons, il y a toujours un enfant à perdre dans la relation à la mère. Là aussi, je suis très freudienne. Freud dit que le premier désir des enfants, même si ça s'oublie, c'est celui de faire ou de recevoir un enfant de la mère. Bon, moi, je peux vous dire une partie de un fragment. Une fois, je me souviens d'avoir été dans le dernier temps de ma grossesse, d'avoir dû monter les étages avec ma mère parce qu'il n'y avait plus d'ascenseur, et elle me dit, et de l'avoir entendu me dire, fais-moi un beau petit garçon. Donc, bon, ça circule, quoi. Ça circule. Après, c'est des paroles comme ça, qu'est-ce qu'on en fait, mais ça circule. Donc, toute femme a, toute fille, et peut-être aussi tout garçon, puisque c'est le premier désir de l'enfant, c'est d'avoir ou de faire un enfant à la mère. Donc, forcément, il y a un enfant à perdre. C'est cet enfant-là qui satisferait la mère. Donc, comment ne pas être pris dans cette aspiration-là d'arriver à satisfaire la mère. Mais qu'est-ce qui la satisfait ? Tout, pas tout. Voilà. Donc, il y a un enfant à perdre, oui. Mais qu'une femme qui n'a pas d'enfant puisse traverser un état de mère majuscule, mais bien sûr, ne serait-ce que par rapport aux enfants des autres ou à l'enfant, bien sûr. Absolument. Mais combien de temps, comment, avec quel... Oui.
Moi, ça me faisait penser à ce que sont les infertilités traitées, les procréations, l'ensemble des procréations médicalement assistées. Ou est-ce que sont les morts in utero ou les fausses couches? Et je me demandais si toutes ces pertes-là ne disposaient pas les femmes plus volontiers à cette période. Alors, que je ne sais pas s'il faut définir comme nostalgie ou comme mélancolie. Et je pense d'ailleurs que c'est des questions qui sont liées à l'intensité du ressenti de chacune. Mais je me demandais quel lien on pouvait faire avec... s'il y avait un lien que tu avais établi entre cette situation de mère majuscule et le texte de Freud de Deuil et mélancolie.
On peut dire oui, mais bien sûr, mais j'ai perdu l'idée qui m'était venue. Je pense que il y avait quelque chose à propos de la disposition de la femme à la nostalgie quand même. Ça, la psychanalyse insiste là-dessus, sur le rapport de un rapport particulier à la perte, hein, ou au non-avoir. Mais ce n'était pas ça. J'ai eu une idée, elle va me revenir. Ça m'a traversée, puis je l'ai perdue.
Par rapport au PMA ?
Par rapport au PMA. Moi, il y a aussi des femmes qui se disent, j'en ai marre de la PMA et je vais me faire un enfant, par exemple, surtout si c'est la stérilité de l'homme, qui veulent régler la question... en allant se faire un enfant par les voies naturelles. Il y a une radicalité. C'est pour dire, c'est pas pour donner des petites anecdotes croustillantes, c'est pour dire qu'il y a une sorte de radicalité dans le psychisme de la femme qui est peut-être une de ses spécificités. Ça peut être radical, quoi. Ça peut être radical pour chercher la solution tangible.
Et je crois qu'effectivement, les femmes sont encore aujourd'hui, malgré tous les progrès de la médecine, je trouve qu'elles perçoivent encore le danger de vie et de mort lié quand même à l'accouchement. Et je trouve que c'est très très présent chez elles quand elles arrivent à en parler, de ce danger de mort qu'elles perçoivent, même si la médecine vraiment...
La médecine...
arrive quand même à...
Il y a des pôles d'urgence pour les hémorragies de la délivrance. Enfin, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent se passer, notamment... ailleurs que dans les pays civilisés. Hein, il y a beaucoup, beaucoup de morts... Oui. De morts
Et je crois que ce danger, vous parliez de nostalgie, ce danger de la perte aussi, est quelque chose de très perçu, de très présent, même si ce n'est pas conscient. Et ça peut lier, effectivement, de manière particulière, les mères avec leurs enfants. Cette question du danger auquel ils échappent. Alors qu'elles se sentent le posséder ou avoir des droits sur lui parce qu'il a échappé à la mort ou qu'elle a permis qu'il vive, là, on est dans autre chose. On est dans des liens d'emprise, dans des liens d'aliénation qui, effectivement, rendent compliquée la question de l'altérité de l'enfant. Et moi, par rapport à ce lien précoce dont vous parlez, c'est pas si évident que ça, peut-être pour tout le monde, qu'on veuille faire un enfant à sa mère. Hein, c'est quand même quelque chose qui est assez choquant.
Mais il faut bien sûr que c'est pas évident, mais la question n'est pas de le faire dans la réalité. La question est de placer la représentation de l'enfant, de faire ou de le recevoir, dans le contexte de pouvoir satisfaire la mère ou d'être satisfait par la mère. C'est dans ce contexte-là que ça doit être appréhendé, pas du tout comme une réalité incestueuse. C'est pas ça la question. La question, c'est que
c'est
d'emblée, dès les premières années de la vie, la représentation de l'enfant, même si c'est une représentation informe, elle est liée à ce qui peut ou non satisfaire la mère. Et on peut être en accord avec cette notion de satisfaire la mère ou en total désaccord. Et moi, je pense que dans les travaux des féministes, il y a complètement occulté cette place du rapport des politiques féminines à la mère et à la maternité de la mère. C'est complètement occulté et c'est... Ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur, hein, c'est important. Je veux dire, Simone de Beauvoir, il y a eu récemment, pour son centenaire, donc en 2009, un colloque et où il apparaissait très clairement qu'elle, elle n'était pas particulièrement... elle n'était pas particulièrement disposée à faire de la politique. Simplement, quand le deuxième sexe est paru en 1949, le nombre de femmes qui sont venues sonner à sa porte ont fait qu'elle a répondu, puis elle est partie avec elle. Mais ce n'était pas prévu dans Mémoire d'une jeune fille rangée. Ce qui l'intéressait, c'est quand même la lecture, le professorat et Sartre. Et d'ailleurs, dans les lettres à Nelson Algren, il est clair qu'elle a bien pensé à faire un enfant. Alors après, chacun... Mais je pense que cette notion de l'enfant, la représentation, la place de la représentation de l'enfant dans, pour satisfaire, mais ça reste aussi, c'est quand même pour satisfaire. Qu'est-ce qu'on, avec un enfant, on cherche toujours à satisfaire quelque chose quand même, ne serait-ce que. Hein.
Alors bien sûr qu'il y a la question du narcissisme.
Oui.
Hein, puisque vous l'évoquez finalement à travers les questions de l'identification. L'identification projective dont parle beaucoup de pédopsychiatres et en périnatalité est vraiment centrale dans ce qui va être délégué à l'enfant de son propre narcissisme infantile. Moi, j'ai effectivement le sentiment que le renoncement au narcissisme infantile chez un parent me paraît fondamental quand il devient parent à son tour. Je me souviens d'une patiente qui était enceinte et je lui avais dit, mais vous êtes en rivalité avec la fille que vous portez et j'ai l'impression d'avoir deux petites filles qui se disputent l'amour, mais alors de qui ? Alors évidemment que c'était une mère haïe et je pense que quand il y a des identifications à une mère qui est plutôt du côté de la haine, c'est très compliqué à devenir mère soi-même. Et il me semble que cette question de la rivalité de l'infantile en soi, qui ne cesse pas, qui est intemporelle avec une demande, qui ne cesse pas, même parfois jusqu'à chez des femmes âgées, et qui est encore demandée à l'enfant de venir être celui qui va la réparer, lui offrir cette estime qu'elle n'a jamais eue, et ce narcissisme blessé chez la mère. Quand il n'y a pas de renoncement, il y a une rivalité véritable entre cet infantile qui est encore là et puis l'enfant qui naît. Et du coup, il n'y a pas de place pour l'enfant qui naît. Et ça, dans la clinique, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué à travailler, à traiter, et on est obligé d'en passer par la haine maternelle et par les blessures infligées à la mère étant enfant pour que quelque chose qui a été effracté ou qui a été justement pas unifié, du coup, est demandé à l'enfant, inconsciemment.
C'est vrai.
Mais qu'est-ce que c'est compliqué, ça ?
Oui, moi, je trouve que beaucoup de jeunes couples avec des bébés le résolvent de façon un peu différente. Ils sont confrontés à la même chose, à la difficulté d'abandonner leur narcissisme infantile ou au moins de le transformer pour permettre l'épanouissement de celui de leur enfant. Mais ils résolvent ça par une pirouette qui est la fascination pour le bébé. C'est-à-dire qu'ils sont dans une fascination telle que le bébé devient l'objet de cette fascination et ils sont à un niveau de parole presque d'enfant à enfant. dans une relative...
Une absence de différence de génération.
Absolument. Une très grosse difficulté éducative, de fait, parce que, ben finalement, on ne sait plus qui couche avec qui, si je puis dire, parce qu'ils dorment tous ensemble, finalement. Et c'est une fascination qui me fait penser au regard de Mowgli pour le serpent dans le livre de la jungle, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas sortir de ce cercle vicieux du regard et d'être toujours étonnés, émerveillés par leur enfant qui est présent sur la totalité du panorama photographique de leur iPhone et sur toutes les caméras possibles de la maison, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de distance, c'est qu'une admiration. Et ça, c'est la même chose que de rester dans le narcissisme sous une forme agressive, sauf que c'est un contournement.
Mais là, je pense à un patient auquel, c'est un garçon d'une... Il a, je sais pas, 23, 25 ans. Et sa mère lui a raconté que... Et il n'avait rien compris. Sa mère lui a raconté qu'il était né avec la clavicule cassée. Donc je pense que c'est au moment de l'accouchement, on a dû lui casser la clavicule. Donc il est resté très, très impressionné par ce récit de la mère. Et alors, je pense que... Il est quand même tout à fait marqué dans son histoire, que je ne veux pas reprendre ici. C'est pas la peine, mais il est vraiment marqué par cette douleur qu'il a fait à la mère, que lui-même a ressenti. Et quelque chose autour de... Ça ne s'est pas bien passé pour elle, quoi. Et c'est ma faute. Ça arrange pas les choses.
Oui,
quoi.
Dans les accouchements,
il s'est pas vu. Il sait pas non plus comment elle l'a regardé. Parce que c'est ça ici.
Et oui.
Moi, je vous dis mère majuscule parce qu'il fallait bien créer une représentation qui fait que, au lieu de vouloir que la mère soit, je vais pas attaquer Winnicott, mais quand même suffisamment bonne. Mais suffisamment bonne, elle peut être un peu mauvaise. Mais c'est pas la question d'être mauvaise. C'est la question que tous ces regards ne vont pas être automatiquement portés sur l'enfant, même s'il y a cette fameuse allégorie du stade du miroir et où l'enfant... C'est vrai aussi, hein. C'est vrai que l'enfant porté par la mère anticipe son devenir à travers le désir de la mère. Mais ce désir, il n'est pas univoque. N'est pas univoque. Et par ailleurs, le petit gars... Vous savez, le stade du miroir, c'est à partir d'une expérience de psychologie que d'Henri Vallon, comment on porte les enfants et comment, en portant un enfant qui n'a pas encore acquis la marche, on va se regarder le regardant dans le miroir. Cette notion de regard, elle est quand même très, très importante. Et elle organise puisque le petit homme, à différence de l'animal, il peut pas assurer sa propre survie, donc nécessairement il y a cette notion de regard. Donc d'ailleurs dans toute l'iconographie, même si l'enfant est en majesté, dans toute l'iconographie, c'est bien rare que la mère regarde l'enfant. C'est bien rare. Alors qu'est-ce qu'elle regarde? Elle a un regard intérieur, et c'est ça, voilà. Et c'est déculpabiliser. Pour moi, c'est pas pour les culpabiliser, c'est pour dire est-ce qu'on peut accepter qu'une mère puisse, comme ça, cultiver une représentation d'enfant est-ce que ça aliène vraiment l'enfant réel? Ça peut, vraiment, ça peut.
Winnicott, il dit ce qu'elle voit dans les yeux. Quand une mère regarde son bébé, ce qu'elle voit dans les yeux de son bébé, c'est elle-même. C'est ça qu'il dit.
Je ne suis pas sûre.
Mais je pense quand même à la métaphore paternelle.
Et bien sûr,
parce que justement, dans ce regard, il y a le père, il y a l'homme. Ou alors il n'y est pas, ce qui est très ennuyeux. Mais dans les hypothèses, dans le fait que justement, dans l'interprétation que la mère fait du cri, des gestes, etc., il y a la métaphore paternelle.
Absolument.
Qui justement ouvre.
Oui, mais qui ouvre aussi... Alors là, il y a sur le plan de l'histoire de la psychanalyse, moi je trouve que c'est intéressant parce que pour Freud justement, quand l'enfant voit que la mère elle aime ailleurs, alors il construit des fantasmes de vengeance. Il y a des parents, il y a tout un roman familial. Il peut y avoir des parents ailleurs qui sont meilleurs, qui sont enfin tout. Alors que Mélanie Klein, elle dit. La mère, elle sent quand l'enfant veut l'attaquer. Et donc, oui, il a peur
met,
d'elle.
Oui, elle met toujours la haine du côté de l'enfant mélanique, là.
Ouais.
Alors qu'on sait bien que, même Winnicott l'a dit, hein, les mille manières qu'a une mère de haïr son enfant.
Et oui.
Hein? Donc, la haine, elle est aussi et souvent du côté de la mère.
Les raisons.
Les raisons, c'est ça, c'est le terme exact. C'est pas les manières, c'est les raisons. Mais comme ça se traduit dans les gestes, je parlais de manières.
Dans le... Je voudrais compléter une chose qui m'importe. Dans ce que dit Daniel Braille, je suis très sensible à l'histoire de la clavicule parce que quand je suis né, ma mère a eu une flébite et que j'entends encore dire c'est quand tu m'as collé ma flébite. Donc, donc c'est quand même intéressant pour moi cette histoire. Et la deuxième, c'est que cette histoire de ma majuscule, à travers la lecture que j'ai eue de ce livre, m'a évoqué une situation de pédiatrie très particulière à laquelle je suis très sensible depuis le début de mon, presque le début de mon activité, qui est le fait de ce qui se passe quand une femme a une fille qui a une fille. C'est une histoire très particulière pour moi en pédiatrie. Qu'une femme vienne me voir avec un bébé, c'est habituel. Avec un garçon ou une fille, c'est habituel. Que sa mère soit présente, ce n'est pas toujours le cas. Et en général, quand elle est présente, c'est que c'est une petite fille. Et c'est extrêmement particulier de voir les femmes grand-mères, jeunes, nouvelles grand-mères, leur attitude en consultation, leur retrait relatif, leur discrétion, leur désarroi relatif aussi, une certaine tristesse, au point que ça m'est arrivé 3 fois, depuis 30 ans, que des grands-mères, étant venues à cette consultation, me demandent à me rencontrer seule.
Ah oui.
Et que par 3 fois, des femmes différentes, je les ai rencontrées à 2 ou 3 reprises sur leur besoin de parler avec un homme de presque leur âge de cette situation. Enfin, presque leur âge, ou en tout cas tiers dans la famille et étranger à cette histoire. Mais dans une position transférentielle très particulière à la pédiatrie, qui est une chose très passionnante. Mmh. Mais je pense que c'est un moment où justement chez elle se fait cette scission, parce qu'elle est chronologiquement justifiée, physiquement, anatomiquement justifiée, fonctionnellement justifiée, et puis parce que leur fille ne se prive pas de les mettre dans cette position, mais où elles se retrouvent, elles sont encore la mère de cette femme, mais cette femme, elle n'a plus trop besoin de sa mère sous cette forme ancienne, elle a besoin d'une forme, elle a besoin d'une mère. Je pense qu'il faut que la mère soit vivante au moment où leur fille accouche. Je ne dis pas présente, mais je dis vivante. C'est important d'avoir sa mère, ne serait-ce que pour pouvoir s'y opposer, pour pouvoir la vouer aux gémonies, mais au moins qu'elle soit là pour quelque chose.
J'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure à propos de la nostalgie et de la mélancolie. Il y a eu une époque où je disais, mais finalement, la mélancolie des femmes, on pourrait le dire que c'est la mélancolie du bas-ventre. Mm-hmm. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne bien, ça fonctionne moins bien, ça fonctionne quand on veut, pas quand on veut. C'est quelque chose comme ça. C'est autour du bas-ventre que ça peut s'entendre. Mmh. Voilà, c'est tout.
Quand j'ai commencé médecine, l'hystérie, ça s'appelait le pitiatisme.
Ouais, oui.
On ne disait pas hystérique, jamais personne, parce que c'était dans les services, on ne pouvait pas le dire devant les gens, parce qu'ils avaient des manifestations somatiques qui ont maintenant... Le paysage de l'hystérie s'est beaucoup modifié, mais on disait pitiatique en référence à la pitié de Delphes, qui était connue pour ses grands mouvements de pensée. On va devoir s'arrêter.
Oui.
On va remercier Daniel d'avoir fait ce déplacement.
Merci à vous.